Paris dort. Paris est une réserve, Paris est un musée, et Paris pourrait être bien plus que ça. Paris pourrait être une réserve de la vie, une réserve de la folie, une réserve de la beauté, une réserve du végétal, pourrait s'agrandir jusqu'à la mer. Paris pourrait sortir de cet insupportable périphérique. Je voudrais, comme en Chine, qui est si périphérique et qu'on gomme les cinq premiers. Paris devrait être une sorte de pieuvre. L'imbécilité d'avoir des tours à mi-chemin d'une tour. Typique, on décide sans oser. On va pas au bout. Et quand on imagine des tours gigantesques avec cette merveille absolue, une des plus poétiques de Paris, qui est le pont Bir Hakeim, ça serait magnifique. Il y aurait une sorte de dialogue entre la tour Eiffel et un vrai front. Avoir un front de scène humilié, c'est pas un front de scène, c'est une pénitence de scène. Pour moi, la meilleure définition de la politique, et d'ailleurs de la vie, et d'ailleurs de la ville, c'est l'art du possible. Paris, c'est le millième de l'art du possible. C'est la crainte du possible, Paris. Il faut redonner à Paris l'art du possible. Paris est verrouillé par le périphérique, Paris est verrouillé par la timidité, Paris est verrouillé par la nostalgie du passé, Paris est verrouillé par l'impossibilité de gagner la mer. On mérite mieux que ce Paris-là.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Redonner du possible à Paris, demande Eric Orsenna. Et il est sûr que nous le méritons, pauvres humains, étouffant dans les embouteillages, tournant en rond sur le périphérique comme des hamsters dans leurs roues, piétinant des heures pour entrer dans un musée ou visiter un monument, baissant la tête honteux en passant devant le triste front de Seine ou l'immonde tour Montparnasse et rêvant sans espoir au sublime skyline de Manhattan face à l'entassement de béton fatigué à la Défense. Rêvons donc Paris, ouvrons grand les portes à l'utopie créatrice, bousculons les frileux gestionnaires du patrimoine et interpellons les politiques à l'œil bovinement fixé sur la prochaine élection. Donnons de l'air à Paris et de l'énergie à nos envies. Ce n'est même pas un vœu, c'est une urgente nécessité. Nous aimerions tant que le gouvernement tout entier, les dirigeants des partis et des syndicats, les technocrates des ministères et de la ville, soient conduits sans plus attendre à la Cité de l'architecture à Paris, où se tient jusqu'au 9 mars prochain l'exposition la plus dynamisante de l'année, Revoir Paris, signée Françoise Keuten et Benoît Peters, les deux complices qui publient parallèlement chez Casterman un album du même nom. Dans l'album, nous suivons une exilée de l'espace envoyée en mission sur Terre et qui va découvrir un Paris forteresse interdit aux indésirables, elle qui s'était remplie l'imaginaire de visions d'une ville chantée par les poètes et les écrivains du 19e siècle. L'exposition fascinante nous montre, outre les splendides planches originales de l'album signé Skuyten, les plans, dessins et montages réalisés par ceux qui, au siècle 19, comme à la fin des années 50, avaient pensé, rêvé, imaginé ce que devrait devenir cette capitale musée dans les années 2000. Les deux complices, Skuyten et Peters, sont ce soir les invités de l'humeur vagabonde.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Ta bouche, bouches de métro. Les bateaux mouchés, la couleur de l'eau. C'est fini, Paris. Je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit. On dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la nuit s'éveille à minuit.
Le fait de la ville concentrique, c'est lié à l'assiègement, au fait qu'on était assiégé et qu'on devait se défendre. Donc aujourd'hui, garder le périphérique et garder ce système concentrique, c'est se sentir toujours assiégé. Et moi, ça veut dire que quelque part, la banlieue serait l'ennemi face à Paris. Parce que c'est toujours de l'extérieur, c'est pas de l'intérieur l'ennemi. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a assiègement, il n'est pas d'ici. Il est plutôt à l'intérieur. Et c'est plutôt le commerce, c'est plutôt la finance, c'est plutôt l'économie et la façon dont on organise le monde à partir de l'économique et du financier uniquement, qui est l'ennemi aujourd'hui. Donc je pense qu'au contraire, il faut ouvrir ces barrières, les supprimer et poursuivre le territoire, mais dans les deux sens. Et quand on fabrique aujourd'hui, dans le Grand Paris, le grand métro, à nouveau pour circulaire, on continue l'idée de forteresse. Et quelque part, la ville, par les infrastructures, pour moi, c'est une aberration. La ville, c'est d'abord des humains, donc c'est de la continuité de territoire et de la continuité d'habitants et d'habiter. Et c'est de la façon, et après ça, à l'intérieur de ça, on doit avoir de la communication et de la connexion. Et donc des moyens de déplacement également à l'intérieur. Mais ce n'est pas pour autant du super métro, du super périphérique, qui indéfiniment fabrique et ramène la France au centre de Paris.
Bonsoir, Françoise Coïten.
Bonsoir.
Bonsoir, Benoît Peters.
Bonsoir.
On vient d'entendre Odile Deck, qui est architecte et urbaniste. Elle fait partie de ces personnalités, de ces intellectuels et de ces praticiens que vous avez interrogés, Benoît Peters, et qui clôturent cette exposition très stimulante pour l'esprit qui se déroule en ce moment à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Cette exposition, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, qu'elle est née pour vous, pendant que vous étiez en train de réaliser votre album « Revoir Paris », comme si finalement le propos qui était le vôtre débordait de l'album, il ne pouvait pas être contenu dans cet album, il fallait qu'il y ait une prolongation, puis surtout presque, j'allais dire, une floraison, parce que l'album, qui est comme pour les cités obscures, qui est en fait un roman, qui est quelque chose que vous imaginez, vous a donné envie d'imaginer quelque chose de très concret, qui est le futur de Paris.
En fait, c'est vrai que quand on travaille un récit, on est sur une matière qui nous obsède, qui nous passionne, et on voit aussi toutes les potentialités. Et c'est vrai que l'on a difficilement résisté à l'idée de prolonger cette réflexion, de prolonger le matériau qu'on était en train de pétrir, qui était ce rêve de Paris, ce revoir Paris. Et comme ce titre l'indiquait, il y avait deux façons de l'aborder. Revenir ou le réinventer. Et donc ce titre a lui-même généré le projet d'exposition à la Cité. Ce qui était très excitant, c'est de voir qu'ils ont réagi très vite et qu'ils nous ont dit « allons-y ». Et alors on a pu élaborer un scénario qui était un petit peu une prolongation de la fiction. Mais j'ai l'impression que l'un et l'autre se renvoient un petit peu s'équilibre et se complète.
Alors, si je puis me permettre, moi je trouve que l'album Revoir Paris, il est assez angoissant parce que cette Karine qui arrive, qui a imaginé un Paris qu'on imagine tous, qui est un Paris littéraire, hein, qu'on aime beaucoup, elle se retrouve, j'allais dire, dans un film de Richard Fleischer, hein, c'est Soleil Vert, c'est assez angoissant et c'est effectivement un avenir qu'on sent bien approcher de nous. Benoît Peters, l'exposition, elle est au contraire beaucoup plus stimulante. Alors évidemment, ce sont des projets, des projections même, des rêves aussi. Mais on se dit, mais pourquoi pas? Ça peut marcher. Alors l'album, on a un gros coup de blues. Et aussi, après, on va à l'exposition et on se dit, bon, finalement, il y a de l'espoir.
Dans l'album, il y a quand même beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs surtout. Je pense que c'est rassurant de se dire qu'au milieu du 22e siècle, puisque c'est le moment où se déroule notre histoire, le désir de Paris est toujours là, intact, même s'il est un peu déformé. Mais il est vrai que dans l'exposition, on a voulu peut-être redonner un peu d'élan, un peu d'avenir à ce Paris qui nous semble quelquefois un peu coincé, un peu bloqué dans une fausse historicité. Parce qu'au fond, on aurait l'impression à ce moment-là que la ville est achevée, qu'elle est complète et que tout ce qu'on pourrait y faire ne pourrait que la dégrader. Si on regarde l'histoire de Paris, c'est une succession de coups de force. Il ne faut pas oublier que l'haussmannisation a été d'abord vécue comme une violence avant de devenir le classicisme.
Et elle l'a été.
Ça a été une violence
surtout
énorme.
Surtout pour et en les même quartiers temps, populaires.
Ça a peut-être protégé Paris d'atteintes plus graves au XXe siècle. Le XXe siècle, on en retient quelquefois des réalisations ou des destructions tout à fait dommageables. Effectivement, on se souvient de la tour Montparnasse, de la disparition des Halles, des percées autoroutières au cœur de Paris. Mais en même temps, il y a eu de beaux projets, de beaux rêves, dont beaucoup n'ont pas pu se réaliser. Et sortir tous ces dessins d'architectes et d'urbanistes, ceux d'Henri Sauvage, de Perret, de Le Corbusier, de Mémon, de Jonah Friedman, tout ce moment où on croit au devenir de la ville, où on rêve de fragments d'un an 2000 qui nous apportera quelque chose, je pense que en ce moment de panne du Grand Paris, de retomber dans quelque chose de très étriqué par rapport à ce qu'a été l'ambition initiale, c'était nécessaire. Donc je crois qu'effectivement, on sort avec un sentiment relativement joyeux de l'exposition parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Quand on entendait tout à l'heure Eric Orsenna, ce qu'on sent, c'est l'amour de Paris, mais l'amour d'un Paris qui ne serait pas figé en imagerie.
Oui, mais ce qui est aussi frappant dans cette exposition, et je me tourne vers Françoise Coyten, parce que ces dessins voisinent avec les dessins de ceux qui ont imaginé Paris, on se rend compte que bon, les expositions universelles entre 1855 et 1900 ont été un formidable moteur pour l'imaginaire et pour la réalisation d'ailleurs de bâtiments, et même éphémères, mais parfois aussi durables. Et puis, la fin des années 50, où on se relevait des ruines de la guerre, on commençait à espérer dans un avenir meilleur. Tout ça, ce sont des périodes où j'ai l'impression que l'imaginaire des urbanistes, des architectes ou des intellectuels a fonctionné à plein et qu'aujourd'hui, la tour Triangle s'est piteusement achevée et puis c'était un petit projet dans un petit endroit, il n'y a même pas de vision globale. Comment se fait-il que depuis, en gros, les années 60, il n'y a plus de projets globalisants, de vision à long terme et de dessins qui soutiennent ces projets?
Alors vous dites le mot dessin. C'est vrai que ce projet est né de l'envie de voir des dessins. Parce qu'en fait, ce qui est beau dans ces rendus, c'est la qualité des dessins.
C'est formidable.
Ces architectes dessinaient tellement bien. Et on a l'impression que la qualité de l'architecture et la qualité des visions tient aussi à ces dessins qui incarnent, qui savent l'incarner avec tant de talent, justement. Et c'est ça que l'Expo a voulu montrer aussi. C'est qu'on a d'abord voulu valoriser la beauté de ces dessins. On avait fait bien faire la différence entre ces œuvres de référence et nos planches, parce qu'on était un petit peu, on les a mis sur des lutrins pour justement montrer qu'on était un peu dans le laboratoire, qu'on n'était pas
mais
la même.
Mais si je puis vous interrompre, parce que vous n'oserez pas le dire, vos dessins supportent largement la comparaison question beauté, question couleur, on va peut-être en parler aussi, mais surtout, ils se renvoient les uns aux autres, parce que vous avez rêvé tous un peu dans le même sens, ceux du 19e siècle et vous, Françoise Coyten.
Oui, surtout parce qu'on a voulu montrer à quel point nous sommes nourris de ces dessins. Ces dessins qui nous ont tellement fascinés, qui sont tellement porteurs d'imaginaire, de vision. Et surtout, ils ont du désir au cœur de ça, du désir de faire grandir une ville. Et ces dessins ont vraiment construit les cités obscures. C'était le minimum que de leur rendre hommage et que de les mettre en valeur et de montrer que ce n'était pas seulement des architectes. C'était des gens qui avaient vraiment une philosophie de la ville.
Benoît Peters, ce ne sont pas des projets si fous qu'on pourrait le penser. Bien sûr, il y a des choses très poétiques, il y a des animaux immenses, il y a des tours bizarroïdes, mais comme dans l'album d'ailleurs que vous co-signez tous les deux. Mais ce ne sont pas des projets totalement absurdes. Ils mériteraient qu'on les regarde en visitant l'exposition, pas seulement pour le plaisir artistique, l'émotion, mais aussi en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à prendre là-dedans ? Est-ce que, par exemple, depuis que l'exposition est ouverte, vous avez eu la bonne surprise d'avoir des retours de gens dont c'est un peu le métier quand même de penser à l'avenir?
Je crois que les architectes sont assez de notre côté et que la plupart d'entre eux aimeraient réaliser des idées, des gens comme Christian de Porzamparc ou Jean Nouvel qui sont intervenus aussi dans les interviews finales, sont remplis de désirs et d'idées souvent excellentes. La seule chose, c'est qu'ils préfèrent aujourd'hui les concrétiser ailleurs qu'à Paris. Leurs projets les plus ambitieux se font loin. Et à Paris, on est un petit peu dans l'idée que ça ne vaut pas vraiment la peine, ça ne vaut plus la peine, ça restera dans les tiroirs. Alors, c'est très bien d'avoir des dessins qui sont des rêveries. Je pense que quand Le Corbusier faisait le plan voisin pour Paris, où il imaginait de raser la moitié de la rive droite, si on lui avait dit « on y va, on passe à l'acte », il aurait probablement temporisé. Mais il fallait donner à ce moment-là le sentiment du vivant. Quand Henri Sauvage propose, dans les années 20, de grandes tours pyramidales, on s'aperçoit que le débat qu'on a aujourd'hui autour de la tour Triangle, il est dérisoire. Simplement, ce qu'il y avait dans les dessins d'Henri Sauvage, c'est d'abord une vision large, une vision qui est de quartier entier, comme vous le disiez. Les tours ne fonctionnent jamais bien quand elles sont isolées, mais c'est aussi l'idée d'une grande qualité, d'un grand souci de détail. Une seule image d'Auguste Perret, par exemple, qui propose un alignement de ville-tour, donc vraiment un alignement d'immeubles infinis. Eh bien, elle nous a servi de point de départ à toute une séquence de l'album Revoir Paris, car le dessin est tellement riche qu'on a l'impression qu'on peut l'agrandir, s'y glisser, entrer dans ces immeubles et qu'on trouve à chaque moment des détails intéressants. C'est une architecture encore chargée de narrativité. Et c'est quelque chose que nous aimons beaucoup, François et moi, qui nous fascine depuis très longtemps dans le dessin ancien d'architectes et d'urbanistes. C'est l'idée que l'habitant n'est pas simplement un petit élément posé là pour donner de l'échelle, mais qu'on a l'impression qu'on a imaginé son histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit absolument imaginer le vivre ensemble dans un très grand Paris. On doit se poser la question d'une extension qui ne peut pas être indéfinie et grignoter toute la campagne environnante de manière molle. Il faut des partis francs. Que la ville n'a pas nécessairement à se développer de manière concentrique. C'est aussi une des choses, ce rêve de dépasser les enceintes est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des projets qu'on montre. Et nous proposons dans l'histoire un développement de Paris le long de la Seine jusqu'au Havre, plutôt que simplement par des cercles perpétuellement accumulés, nous éloignant de plus en plus. Tout ça, c'est des choses qui peuvent redonner le sentiment que Paris n'est pas bloqué et que la muséification n'est pas son seul horizon.
D'ailleurs, dans les entretiens que vous avez réalisés, Benoît Peters, avec beaucoup d'architectes et un philosophe qui est très intéressant, qu'on entendra tout à l'heure, il y a évidemment Jean Nouvel, il est aux premières loges en ce moment pour ce débat.
Le territoire urbanisé aujourd'hui est considérable. Si on regarde la métropole parisienne, c'est une sorte de grande algue. Et l'idée qu'on avait développée sur les limites de la ville était l'idée des lisières, c'est-à-dire d'une sorte de parc linéaire qui ferait quelque chose comme 1000 km ou je ne sais plus combien, enfin, très, très, très très long puisque c'est le contour exact de l'algue en question et qui correspond à une inversion du système. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus soignés deviennent près d'un équipement qui est très attractif, où tous les gens viennent, qui est une sorte de grand parc urbain de réappropriation de la frontière de la ville par ceux qui la vivent, où les enfants viennent jouer, où on peut avoir des jardins liés à chacun, où on peut développer tout le maraîchage, où on peut aller se promener dans les bois, où on peut faire évidemment de la bicyclette et tout ce qu'on veut, et où les dernières maisons, a priori, qui sont souvent les plus défavorisées, parce qu'elles sont tournées d'un côté, elles attendent la suivante, se retrouvent tout d'un coup les plus privilégiées. Ce que je crois aussi, c'est qu'il faut être structurant. Une des idées du Grand Paris dans notre projet, c'était l'idée des balcons parisiens, c'est-à-dire des sortes de grands boulevards, terrasses comme ça, qui traversent les territoires et qui sont vécus à différents degrés, à différents étages, comme des boulevards parallèles, finalement, et qui recréeraient d'une autre façon qu'Haussmann l'avait fait, l'idée d'habiter le même territoire, même quand on est éloigné.
Cette idée des balcons boulevards qu'on vient d'entendre dans la bouche de Jean Nouvel, c'est intéressant, Françoise Coyten, parce qu'on retrouve beaucoup de ces idées à travers les dessins et à travers le temps, de dire bah, finalement compensons l'étroitesse du territoire par des élévations, des circulations à d'autres niveaux. Et dans la bande dessinée, dans l'album Revoir Paris, il y a cela, il y a ces circulations. Par exemple, la tour Eiffel est entourée de tours qui permettent aux visiteurs non plus de faire la queue pendant 3 heures au pied de la tour Eiffel, mais de pouvoir accéder à différentes hauteurs. De même, la ville pieuvre aussi, qui s'étend jusqu'à la mer. Et puis, cette vision de la ville du haut, c'est-à-dire de se dire aussi qu'il est important que la ville ait une cohérence en imaginant qu'on la voit comme un passager d'un avion ou d'un ballon dirigeable.
Oui, c'était la constatation que faisait Le Corbusier, c'est qu'il fallait repenser la ville parce que dès que l'aviation est arrivée, il a eu un nouveau regard. Il s'est dit il faut lui redonner une nouvelle définition, une nouvelle vision là-dessus. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de sortir de la vision très, très stigmatisée, très, très réduite, très caricaturale des tours telles qu'on les a vues et sortir depuis maintenant pas mal d'années. On voit arriver des nouvelles techniques, on voit arriver des nouvelles conceptions et des nouveaux plaisirs de tours, des nouvelles émotions. Et c'est là où on a essayé, par exemple sur la Défense, d'imaginer ce que pourrait être la Défense avec des tours flammes qui seraient des tours dynamiques, vivantes, qui capteraient la lumière, l'humidité, qui refroidiraient, réchaufferaient, qui pourraient jouer avec le vent et qui seraient des emblèmes, qui seraient très organiques. Avec le corps des gens qui vivent, qui seraient en relation avec le ciel et la terre. Et toutes ces notions, ce sont des perspectives qu'on a difficile à imaginer tellement on est enclavé dans une vision un peu réductive.
Mais est-ce que c'est un rêve d'artiste ou est-ce que justement vous avez travaillé avec Dassault pour faire notamment ce 3D magnifique, cette coupole où on peut imaginer, où les visiteurs peuvent imaginer leur Paris rêvé. Est-ce que la technique permet par exemple ces tours oriflammes très spectaculaires et qui changeraient beaucoup l'aspect de la Défense qui est un peu tristoun aujourd'hui, il faut bien le dire. Est-ce que c'est juste une imagination ou est-ce qu'on en est pas si loin? Est-ce qu'on pourrait le faire?
Alors, je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui précisément si on peut lancer ce projet-là, mais on voit bien qu'il y a... Vous savez, les scientifiques sont en train de découvrir des choses extraordinaires. Je suis souvent déçu de voir à quel point on est peu en relation avec les chercheurs, avec tout ce qui se découvre aujourd'hui, toutes les technicités, et de voir comme ça peut nous apporter des dimensions qu'on sous-estime et de plaisir, de légèreté, de relation avec notre environnement qui vont être totalement transformées. On a un peu un manque d'imagination et c'est souvent la technique qui en fait preuve le plus. Regardez, on a été surpris nous-mêmes par tellement d'éléments que personne n'avait vu. Personne n'avait vu venir la façon dont on allait être interconnecté avec les portables et toutes ces dimensions. Je crois qu'on est en train de sous-estimer cette évolution-là. Mais ce qui est dommage, c'est de se priver de toutes les perspectives qu'elle nous donne.
Benoît Peters.
Oui, il me semble qu'une chose très importante, c'est de se demander aujourd'hui ce que sera vraiment la fonction d'une ville comme Paris dans 20, 30 ou 50 ans. Parce que 30 ou 50 ans, c'est le temps qu'il faut pour mettre en œuvre les idées qui pourraient être lancées. Effectivement, ces connexions qui nous permettent d'être en relation les uns avec les autres, ce développement du télétravail, vont peut-être amener à redéfinir la fonction d'une grande ville. Travailler sur la polycentralité, travailler sur le plaisir d'être ensemble en un lieu et pas simplement les contraintes qu'impose la grande ville avec des trajets interminables. Et là, je crois qu'il faut absolument se dire que si une ville-monde comme Paris peut l'être, a une fonction, ce ne sera pas la fonction qu'on a connue au XXe siècle, que probablement Paris ne retrouvera pas les grands équipements industriels qui ont amené la construction des banlieues, etc. Qu'il va falloir penser tout cela autrement. Donc c'est à la fois un lien entre l'aspect scientifique que vient de décrire François, des possibilités par exemple de se dire la verticalité n'est pas l'ennemi d'une certaine nature, d'une certaine écologie, et en même temps, sociologiquement, philosophiquement, se demander vraiment pourquoi on se rassemble, dans quelle échelle on vit et quel est le rapport entre ce qu'on bâtit et une échelle qui n'a pas bougé, qui est celle du corps humain. Je crois que toutes ces questions-là, elles vont quand même beaucoup plus loin que les débats sur la répartition du coût du supermétro, etc. Et même la question que tout le monde pose et sur laquelle on est à peu près tous d'accord, qui est la nécessaire transcendance du périphérique, non pas sa suppression pure et simple, mais son dépassement vers autre chose, ce n'est qu'un détail dans cet ensemble. La question de la ville historique et de la ville moderne, ce n'est qu'un aspect aussi de tout cela. Par exemple, la monumentalité et ce qui générera du tourisme dans l'avenir, ça ne sera pas uniquement la ville ancienne, la ville du 19e, ça sera aussi la ville qu'on doit inventer dans les prochaines années. On le sent très bien avec un projet comme celui de Franck Guéry, par exemple. Le tourisme de demain, ça sera aussi un tourisme de l'innovation.
D'ailleurs, il y a dans votre bande dessinée une bonne dose aussi d'ironie, puisqu'à propos de ce Paris muséifié, Françoise Coïten, Benoît Peters, vous avez carrément mis Karine Descouffes que tous ces monuments qu'elle s'apprêtait à visiter, ils sont maintenant sous cloche. Il n'y a pas de la neige qui tombe autour, mais quasiment.
Presque, vous avez raison. Oui, évidemment, il y a ce danger de voir une telle imagerie parisienne qui phagocyterait l'ensemble, qui serait comme le désir ultime des touristes, retrouver en un même lieu tout ce qu'ils espèrent voir, propre, bien lisse, confortablement, dans leur hôtel. Et donc ce gigantesque hôtel aux milliers de chambres accueillerait comme ça des reproductions à l'identique mais parfaitement réalisées de Notre-Dame et des grands lieux clés de la ville. Mais on y a mis aussi la défense, par ironie, pour montrer que, justement, comme le dit Benoît, il y aura sans doute des aspects qui vont arriver et qui seront devenus des emblèmes.
Thank you.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
On peut craindre ce qu'on voit dans de très grandes métropoles du monde arriverait aussi à Paris, c'est-à-dire des camps retranchés, aisés, confortables, fermés, reliés par des tuyaux et d'autres qui sont laissés pour compte et dangereuses, est une des choses contre lesquelles il faut s'armer. Et je crois que, si vous voulez, l'armature physique du territoire, les infrastructures, etc., les avenues et les rues, il faut le réorganiser là où ça n'existe plus, là où c'est rompu, là où vous avez des tuyaux et des trains qui coupent. Il faut faire passer une continuité urbaine. Je crois que c'est le moyen d'éviter les camps. Je crois qu'on perd la force, la capacité d'agir sur l'espace physique. Nos ancêtres ont fait merveille. Ils ont fait des ponts, des digues, des avenues, des rues. Tout ce travail-là, il coûte cher, il est lent. Et dans notre économie de retour rapide sur investissement, tout ce qui est au contraire matériel, toute cette économie des téléphones et d'Internet, etc., va tellement plus vite et relie les gens d'une manière merveilleuse. Nous vivons avec ça. Et du coup, je crois qu'en contrepartie, la lenteur, la lourdeur, le poids, le prix en dépenses publiques de tout ce qui est infrastructure, de tous les endroits où il faudrait relier, eh bien, il ne faut jamais l'oublier. Dès maintenant et dans le futur, parce qu'on ne peut pas imaginer des millions d'habitants qui vivent dans un monde qui serait un peu hors sol, qui est fait de capsules, parce qu'il y aura les laissés pour compte qui seront dans la boue, qui auront les inondations, qui auront les catastrophes, etc.
Françoise Coïten, Benoît Peters, on vient d'entendre Christian de Port-Zampart, qui fait partie de ces interviewés dans votre exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et on se rend compte qu'effectivement, en ce moment, il y a une grande crainte, une grande peur de l'avenir sur tous les plans. Mais cette peur de voir se concrétiser ce que décrivait Christian de Port-Zampart, c'est-à-dire ce qu'on voit déjà d'ailleurs au Brésil ou aux États-Unis, des sortes de villes pour riches et puis des villes laissées pour compte. Et c'est vrai que dans cet album, Revoir Paris, c'est un peu l'impression qu'on a. Quand Karine arrive après ce long voyage, elle se rend compte qu'il y a des frontières interurbaines. Il y a des zones abandonnées où il fait chaud, où il n'y a pas de travail, où les gens ont faim, où il n'y a rien. Et puis des zones privilégiées. Et dans l'exposition, on se rend compte qu'autrefois, il y avait cet optimisme quand les urbanistes, les architectes ou Jules Verne ou Robida pensaient. Ils pensaient d'abord sur 100 ans, disant bah, « dans 100 ans, ça sera mieux, ça sera bizarre, différent, complètement différent, mais ça sera mieux ». Aujourd'hui, il y a à combattre cette peur du « demain, ça sera pire ».
Ça, c'est vrai que si on a une nostalgie, c'est cette nostalgie de ce désir-là. Ce désir de demain débarrassé de cette espèce de nuage sombre, de la culpabilité, de l'angoisse, de nous voir dans l'avenir, comme si on était responsable de tout ça, ce qui est en partie vrai d'ailleurs, mais ce qui nous enlève une part de fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose qui... Cette expo était là aussi pour redonner de la valeur à cet élan de demain.
Benoît Peters.
Ce à quoi je suis très très sensible dans le propos de Christian de Port-Zampart qu'on vient d'entendre, c'est la question de l'objet ville. Parce qu'on est très obsédé souvent par les objets architecturaux. On a l'impression qu'une ville, pour beaucoup de gens, ce serait une addition de bâtiments remarquables et de constructions. Ce que dit Christian de Port-Zampart, et je pense qu'il rejoint beaucoup de nos réflexions, c'est que la ville, c'est une sorte de tissu qui est celui de l'espace public, que l'espace public n'est pas que fonctionnel, il n'est pas là que pour permettre de passer vite d'un lieu à l'autre. S'il y a une immense réussite de l'haussmannisation, c'est bien celle-là. C'est bien d'avoir investi l'espace public, par exemple l'espace du boulevard, l'espace du pont, pour en faire véritablement quelque chose qui nous donne le sentiment de la ville. Ça s'est payé d'une contrepartie négative à Paris, qui est finalement la petitesse et la difficulté et le coût de l'espace privé. On pourrait dire que par certains côtés, celui qui n'est pas parisien, qui découvre Paris en s'y promenant, profite de ce que la ville a de meilleur. C'est une trace des expositions universelles. On aimerait que dans les imaginaires futurs de la ville, on arrive à unir ces deux qualités, c'est-à-dire réinventer du lien et de l'espace public, du tissu urbain qui aille jusqu'aux limites du Grand Paris, et d'autre part, éviter que la contrepartie soit un espace tout à fait étriqué et beaucoup trop coûteux dans lequel on vit. Il y a des villes comme Bruxelles, par exemple, où j'ai vécu longtemps, où vit François, où c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que l'espace public a été très négligé, très abandonné, et l'espace privé regorge de jardins. par exemple. On rêve toujours d'arranger un petit peu ces deux composantes. Mais une ville, ce n'est pas une addition d'immeubles. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et ce coût-là, cet investissement-là, c'est véritablement celui que le pouvoir politique doit impulser, car lui seul peut le faire.
Autrement dit, comme vous dites, Benoît Peters, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une addition d'immeubles, ce n'est pas non plus une addition de projets, de nécessités qu'on va réaliser. Une ville, au fond, c'est une pensée. Et dans les entretiens que vous avez réalisés pour l'exposition, bienvenue, il y a un philosophe, bien sûr, il s'appelle Philippe Simet.
Plusieurs scénarios se profilent à l'horizon. L'un consiste à muséifier le centre de Paris, et à vivifier ce qu'il y a alentour. Le second consiste à hybrider les deux, Paris et ses banlieues, et à créer un seul et même grand Paris. L'échec possible du grand Paris consisterait à muséifier le Paris intramuros et à reporter ou à reléguer dans ces espaces périphériques qui constituent aujourd'hui sa force vive tout ce dont on ne veut pas parler, tout ce qu'on ne veut pas montrer ou regarder. Donc bien évidemment, là, le Grand Paris serait le lieu par excellence de l'injustice spatiale. Et ça me semble un scénario tout à fait possible dans la mesure où les grandes villes vont chercher à se positionner en termes de qualité de vie. Et donc la promotion d'un certain type de cadre de vie peut se faire à l'exclusion de tout ce qu'il y a alentour. Donc on peut très bien imaginer que Paris présente un modèle de vie relativement idéal, mais qui se fasse sur le dos de ses citadins, notamment des grands Parisiens qui ne seraient pas inclus dans ce processus de transformation et de valorisation de l'espace.
Françoise Coïten, c'est quand même assez étrange, parce qu'on sort de l'exposition, je le disais tout à l'heure, infiniment heureux d'avoir d'abord vu de la beauté et d'avoir vu de la pensée sur le dessin, d'avoir vu de la pensée qui se transmet, qui transmet de l'enthousiasme. Et en même temps, dans chaque intervention, on sent l'angoisse de voir qu'on n'est pas parti dans le bon sens. Alors, ce premier tome, cet album, c'est un premier tome. Revoir Paris, je disais, il est un petit peu perturbant. Et vous dites que le tome 2 devrait ouvrir sur des perspectives plus optimistes.
Oui, c'est vrai que le premier tome, c'est un petit peu une quête, ce désir de Paris. Et il est tellement partagé. Il est partagé à travers des gens qui ont lu la littérature, qui ont vu des photos, des images, et qui ont tellement investi, qui l'ont tellement traversé ces images, traversé ces textes. C'est ce qui crée la richesse de cette ville. C'est qu'elle a été tellement bien fantasmée, elle a tellement été amplifiée littérairement, cinématographiquement, enfin, au niveau de la peinture, etc. C'est une ville qui a donné lieu comme ça à des transmutations, je dirais, qui font que on en a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce désir-là, il est d'une puissance qu'on avait envie de traduire. Ce désir-là. Il est évident que quand elle arrive, elle est chahutée, elle est terriblement, évidemment, troublée par ce qu'elle voit. Mais c'est le cas aujourd'hui aussi. Et c'est le danger, c'est de vouloir répondre à la demande des touristes. Et d'oublier qu'une ville, c'est organique, ça doit grandir, et que les écrivains de demain vont sans doute s'intéresser à d'autres choses que ceux qui nous ont donné envie de Paris aujourd'hui.
Alors les écrivains, effectivement, ils sont là aussi pour penser Paris, pour aimer Paris, pour donner envie à ceux qui les lisent très loin de venir voir Paris, parfois au risque de la déception. Alors notre reportage ce soir a été confié à Marie-Annick Bello, qui a rencontré pour cela un romancier, il s'appelle Stéphane Michaka. Il écrit des romans pour la jeunesse et l'héroïne de son dernier roman qui s'appelle Cité 19 est une jeune femme comme votre Karine, Françoise Coïten, Benoît Peters. Elle s'appelle Faustine et elle va se retrouver dans une enquête entre le Paris du 21e siècle où elle vit et justement ce Paris du 19e siècle à travers les passages, les vieux passages que vous avez dessinés aussi, Françoise Coïten.
On est devant le passage des panoramas, entre le boulevard Montmartre et la rue Saint-Marc. C'est le deuxième arrondissement de Paris. Et c'est un lieu qui a deux siècles, mais qui appartient un peu à toutes les décennies de ces deux siècles jusqu'ici. Et là, quand on rentre, c'est vraiment pas intéressant, parce que Il y a juste des fast-food, des restaurants assez récents. Et puis petit à petit, à chaque pas, dès qu'on arrive sous cette verrière, qui est en fait la verrière de l'époque, ça commence à changer. Et je cherchais un lieu pour mon roman, qui se passe en partie au 19e siècle, un endroit qui est une ambiguïté. C'est alors évidemment un lieu de passage, pour qu'on bascule d'une époque à une autre, mais aussi un lieu où le 19e siècle est là, mais on a toujours l'impression que par une porte dérobée, on peut soit reculer, soit avancer dans le temps. Et ça, c'est l'effet que produit le passage des panoramas. Aujourd'hui, quand on dit panorama, on pense à une vue, on pense à admirer un paysage. Mais à l'époque, et c'est l'origine du mot, c'était une illusion d'optique. C'était de grandes toiles peintes sous une rotonde. Alors, elle pouvait faire plus de 100 mètres de long et 20 mètres de haut. Et des peintres passaient entre 6 mois et 1 an à peaufiner la toile pour que l'illusion soit complète. Le public rentrait sous ces rotondes et par un jeu de lumière, ils avaient vraiment l'impression d'être dans le paysage. C'est un peu l'ancêtre du cinéma. Le public populaire vraiment découvre ces illusions. Il découvre en même temps l'éclairage au gaz. Donc il y a une magie, il y a une féerie dans la ville qui donne l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de construire ou de fabriquer une illusion d'optique de taille géante. Et c'est pour ça que Paris devient un peu une ville mythique. Et l'impression qu'on peut avoir qu'à tout moment, on peut basculer dans un univers parallèle et peut-être découvrir que tout ça, c'est juste des façades et que derrière, il y a des ouvriers qui s'activent et qui sont en train, sur des échafaudages, de préparer ce qu'on va voir. Ça naît à ce moment-là. C'est le 19e siècle qui invente vraiment le trompe-l'œil, le simulacre. Il y a encore des lanternes magiques dans la ville. On peut appeler quelqu'un qui passe avec une lanterne magique. Il monte chez vous. Et ils projettent dans votre appartement. Alors ça peut être des vues de pays, de villes. C'est du cinéma à domicile. C'est un siècle où on invente des mots et des comportements, mais qui sont toujours attachés à des lieux. Et par exemple, un flâneur, c'est une invention du 19e siècle. Mais le mot flâner, il n'aurait pas été possible sans un passage, comme ici. Parce que dans une rue, on ne peut pas flâner. On est sans cesse malmené. Dans un passage, on peut vraiment rêvasser comme ça, attraper à la volée des images, des silhouettes, ce que faisait Baudelaire, ce que faisait Edgar Poe, sans être à Paris, en fait. Et pour les passants de l'époque, comme il n'y avait pas de trottoir dans les rues, c'était important de s'abriter, de se protéger des claboussures, des fiacres. Et même dans le passage, on est bousculé aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait vraiment, c'était une voie protégée. Et surtout, on pouvait admirer tous les magasins qui sont... Bon, c'est une galerie marchande, donc il y a encore beaucoup de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un lieu à moitié décrépit, complètement désuet, et à moitié très branché, en fait. Parce qu'on voit apparaître, vous voyez, ce petit resto pour manger des aliments sans gluten... Mais en fait, c'est aussi un lieu où on peut observer la transformation de Paris et de la France même aujourd'hui. Parfois, je viens et j'écris sur place. Et puis, ça devient des scènes ou des chapitres du roman. Je suis parti de deux vers de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui dit « Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. » J'aime bien « raccroche ». Parce que, en fait, c'est aussi un verbe un peu menaçant. Et c'est vrai que c'est impossible de dissocier Paris, une ville qui, au 19e siècle, ne cesse de s'embellir, de se transformer. Mais c'est aussi une ville qui est constamment dangereuse. Et mon idée, c'était d'envoyer une adolescente d'aujourd'hui, une héroïne qui a 17 ans, qui a déjà du goût pour cette époque-là, qui aimerait bien s'y balader et de l'envoyer comme ça dans ce qui est peut-être une vraie expérience de voyage dans le temps et peut-être aussi un rêve. En fait, pour moi, le 19e siècle, c'est un rêve dont on ne s'est pas encore tout à fait réveillé. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de ce que d'autres ont rêvé pour nous à une époque qui est quand même assez lointaine. Que ce soit les urbanistes, les hommes politiques, les hommes d'affaires, une partie de ce qu'on vit aujourd'hui, le cauchemar financier, ça a été élaboré pendant cette époque, la spéculation. Tout ce rêve du 19e siècle, il avait aussi son versant de cauchemar, puisqu'on apportait l'exotisme des colonies, et en même temps, qu'est-ce qu'on faisait dans les colonies? On exploitait des peuples entiers, on brutalisait, on assassinait. Donc c'est aussi la séduction de toute cette période pour les romanciers, pour les raconteurs d'histoire, c'est que chaque réalité a un versant inquiétant.
Le roman jeunesse de Stéphane Michaka, dont il a parlé à Marie-Annick Bello, s'appelle donc Cité 19. Il paraîtra en 2015 chez Pocket Jeunesse. Et en attendant, on peut écouter cette histoire en feuilleton radio sur France Culture. Les informations sont à retrouver sur le site de notre émission. François Skoyten, Benoît Peters, on se rend bien compte de, aussi, même pour les écrivains, il y a quelque chose dans ce 19e siècle dont on n'a pas encore achevé, j'allais dire l'exploitation, ce qui n'est pas un joli mot, mais on n'a pas achevé l'exploitation de l'imaginaire du 19e siècle. Mais en revanche, le 20e, alors vous me disiez, Benoît Peters, quand on écoutait Patrick Modiano, oui, mais le 20e de Patrick Modiano, il n'existe plus.
En tout cas, il pense la ville comme un lieu de mémoire, comme une superposition de couches. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sait tous, c'est qu'on a besoin de cette historicité de Paris, par exemple de toutes ces plaques qui jalonnent la ville et qui nous disent les gens qui y ont vécu, qui y sont passés dans cet hôtel à dormir, Richard Wagner, etc. Ça peuple la ville d'autres choses que les purs et simples usages. Donc ça c'est vraiment fondamental et c'est, je crois, ce que toute réflexion sur Paris doit prendre en compte. Il y a eu une époque où il y a eu des fantasmes de table rase à Paris, hein, on peut dire dans les années Pompidou, le moment de l'effacement, par exemple, des Halles de Baltard. C'est extraordinaire de penser que la destruction des Halles de Baltard, qui remonte maintenant à 40 ans, a généré au cœur de la ville une espèce de trou de mémoire. Il n'y a pas que le trou physique, il y a une sorte de trou de mémoire.
Et une souffrance qui ne s'est pas refermée.
Qui ne s'est pas refermée, de blessure qui est là. Et peut-être que dans les tétanisations qu'il y a pour l'imaginaire urbain, il y a des choses comme celle-là, c'est-à-dire des blessures d'un Paris du 19e. C'était le Paris de Zola, mais c'est le Paris d'énormément de gens. C'est le Paris aussi du commerce et de la vie grouillante. Hein, le ventre de Paris, comme il le disait. Eh bien, quand quelque chose de cet ordre disparaît, on n'arrive pas à le rattraper. Et en même temps, exactement à la même époque que le trou des Halles, on a l'érection controversée du centre Pompidou, avec un concours extraordinaire. On montre dans l'exposition Revoir Paris toutes sortes de projets extravagants, incroyables. Et là, on a la réussite d'un monument absolument imprévisible qui vient trouer le Paris 19e et qui en même temps respecte sa trame urbaine et qui finalement aujourd'hui s'y inscrit parfaitement. Je pense que ces deux pôles nous disent quelque chose, c'est-à-dire il y a de l'indestructible, que ce soit dans les villes italiennes ou dans une ville comme Paris, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher et en même temps il y a des moments où des ruptures franches et fortes, quand elles sont très talentueuses, ajoutent une dimension à la ville et la rendre encore plus rêveuse et encore plus forte.
Eh bien, merci infiniment, Benoît Peters. Merci à vous, François Skoyten. Je rappelle que donc l'album Revoir Paris vient de paraître aux éditions Casterman et que cette exposition formidable est très, très dynamisante, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Elle est à la Cité de l'architecture et du patrimoine, donc c'est au Trocadéro à Paris, et on peut la voir jusqu'au 9 mars, mais on ne la verra nulle part ailleurs parce qu'elle a été conçue uniquement pour la Cité du patrimoine. Merci à tous les deux, c'était un plaisir.
Merci à vous. Merci.
Au revoir.
Oh, someone tell me why I can't tell my heart and mind. We're all each other. Now I swear I've lost myself a thousand times. A thousand times. Swore at my mother for the first time. A thousand times.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce lundi. Nous nous retrouverons demain soir aux environs de 20h05. Je recevrai Denis Podalydès et Jérémy Rohrer pour le dernier opéra de Mozart, La Clémence de Titus, qui est monté au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter. Et bien entendu, après les informations, vous avez rendez-vous avec Madame Pascale Clark. À demain.